de l'inscription constitutionnelle de la justice fiscale. Ajoutons enfin que le développement de nouvelles formes de progressivité fiscale et de dépassement de la propriété privée par la propriété sociale et temporaire peut demander des modifications constitutionnelles. Cela n'a d'ailleurs rien de nouveau. En 1913, il fallut amender la Constitution des États-Unis pour permettre la création d'un impôt fédéral sur le revenu, puis d'un impôt fédéral sur les successions. Le développement de la cogestion et du rôle des syndicats dans la gouvernance des entreprises conduisit à l'inscription d'une définition sociale et collective de la notion de propriété dans les constitutions adoptées en Allemagne en 1919 et 1949. De la même manière, afin de pouvoir mettre en place les systèmes de partage des droits de vote et d'impôts progressifs sur la propriété et sur le revenu présentés précédemment, il peut s'avérer nécessaire d'apporter des modifications aux constitutions actuellement en vigueur dans les différents pays. De façon générale, il faut souligner que les constitutions et les déclarations de droits établies à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle étaient profondément imprégnées de l'idéologie propriétariste de l'époque. Cela s'incarnait notamment dans une véritable protection constitutionnelle accordée aux droits de propriété privée établis dans le passé, qui ne devaient être remis en cause sous aucun prétexte, quelle que soit la majorité politique du moment. C'est d'ailleurs dans ce contexte que furent adoptées au Royaume-Uni et en France des compensations financières pour les propriétaires d'esclaves lors du vote des abolitions de 1833 et 1848. Il paraissait en effet impensable, dans l'esprit de la classe dirigeante de l'époque, que l'on puisse priver les propriétaires de leurs droits sans une juste compensation. En revanche, personne ne jugea utile d'indemniser les esclaves en compensation des torts qu'ils avaient subis. Le respect dû aux propriétaires continue d'imprégner nombre de constitutions encore en vigueur en ce début de XXIe siècle, qui devraient notamment être amendées pour permettre la mise en place d'un véritable système de circulation de la propriété et de dotation en capital. Par la même occasion, il serait important d'inscrire dans les constitutions un principe de justice fiscale fondé explicitement sur la notion de progressivité, de façon que les impôts payés ne puissent représenter une proportion des revenus et des propriétés plus faibles pour les citoyens plus riches que pour les plus pauvres, et puissent naturellement représenter une proportion plus élevée, suivant des termes fixés par la loi, sans que le juge constitutionnel puisse y mettre de limite. Dans le même esprit, la Constitution ou les lois fondamentales devraient faire obligation à l'État de publier chaque année des estimations incontestables des impôts réellement acquittés par les différentes classes de revenus et de patrimoine, de façon que les citoyens puissent avoir un débat informé sur ces questions et que leurs représentants soient en mesure d'ajuster les paramètres du système fiscal en fonction d'informations fiables. Ces questions sont d'autant plus importantes que le manque d'informations suffisamment détaillées est souvent l'un des principaux facteurs limitant les possibilités de mobilisation et de contrôle citoyen sur ces questions. Cela vaut d'ailleurs aussi bien dans le cadre des démocraties électorales des pays capitalistes, où le manque de transparence fiscale est criant, tout autant d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis ou en Inde, que dans celui des autres systèmes politiques, et notamment en Chine communiste ou en Russie, où la volonté officiellement proclamée de lutter contre la corruption contraste singulièrement avec l'indigence des données fiscales qui sont rendues publiques. Il faut par ailleurs rappeler que les différentes cours suprêmes et autres tribunaux constitutionnels chargés de veiller au respect des constitutions et de trancher les litiges en dernier recours dans les différents pays occidentaux se sont souvent montrés extrêmement conservateurs sur les plans social et économique. Dès lors que la Constitution leur laisse un interstice, leur permettant de faire valoir leurs opinions partisanes, les juges s'y engouffrent et tentent de les faire passer pour des règles de droit. De multiples épisodes issus de l'histoire des cours suprêmes, depuis le XIXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, montrent à quel point la prudence et la méfiance vis-à-vis du pouvoir des juges sur les questions économiques et sociales sont justifiées. En 1895, la Cour suprême des États-Unis décida d'interpréter les formulations ambiguës de la Constitution en un sens nettement conservateur en décrétant qu'il était impossible d'adopter un impôt fédéral sur le revenu, ce qui mena à la suite d'un long processus à l'amendement constitutionnel de 1913. L'année suivante, en 1896, les mêmes juges considérèrent dans le sinistre arrêt Plessis versus Ferguson qu'il était parfaitement légal pour les États du Sud de pratiquer la ségrégation raciale autant qu'ils le souhaitaient. Pendant les années 1930, la Cour suprême s'illustra de nouveau en censurant à de multiples reprises des législations sociales et financières adoptées par le Congrès dans le cadre du New Deal, au motif que certaines de ces régulations constituaient une atteinte inacceptable à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle privée. Réélu en novembre 1936, avec 61% des voix et furieux de devoir retarder la mise en œuvre de sa politique, Roosevelt annonça début 1937 son intention de faire adopter une loi lui permettant de nommer de nouveaux juges et de débloquer enfin la situation. Finalement, face à la pression exercée par les autorités politiques, la Cour suprême décida quelques mois plus tard de changer sa jurisprudence en validant une loi décisive sur le salaire minimum, loi qu'elle avait précédemment censurée. Depuis les années 1970-1980, à la suite des nominations faites par les présidents républicains, la Cour suprême a repris un cours de plus en plus conservateur, notamment en décidant d'abolir une à une toutes les législations visant à limiter l'usage de l'argent privé dans la vie politique et le financement des campagnes, tout cela au nom de la défense du « free speech » et de la nouvelle interprétation que les juges avaient décidé de faire de cette notion. La conséquence est que, si les démocrates décidaient à l'avenir de remettre en place des législations en ce domaine, il leur faudrait commencer par changer la Constitution, ce qui est complexe mais a été fait à de nombreuses reprises dans le passé, et ne doit pas être perdu de vue comme horizon lorsque cela est indispensable. Ou bien, par changer la loi fixant la composition de la Cour suprême, ce qui est plus simple, mais généralement considéré avec suspicion. Les exemples d'abus de pouvoir de la part de juges constitutionnels ne se limitent malheureusement pas à la Cour suprême des États-Unis. Un cas particulièrement extrême est apporté par l'affaire Kirchhoff en Allemagne. Juriste fiscal, visiblement très énervé contre l'impôt, Paul Kirchhoff fut, pendant la campagne électorale allemande de 2005, présenté comme le futur ministre des Finances d'Angela Merkel, avec à la clé une proposition choc, une flat tax, limitant à 25% le taux d'imposition des plus hauts revenus. Dans la sphère politique, chacun est bien sûr libre de ses opinions, qui en l'occurrence n'ont guère séduit les Allemands. Tout indique que cette proposition a fortement contribué à réduire le score attendu par la CDU, si bien que Merkel fut contrainte de former une coalition avec le SPD et de se séparer de son conseiller. Mais le point intéressant de l'affaire est qu'en 1995, alors qu'il était juge au tribunal constitutionnel allemand, le même Paul Kirchhoff avait rendu un arrêt jugeant inconstitutionnel toute imposition du revenu supérieure à 50%. L'affaire fit scandale, et l'arrêt fut finalement cassé en 1999 par les juges constitutionnels allemands, qui confirmèrent en 2006 qu'ils n'entraient pas dans leurs attributions de fixer des limites quantitatives au taux d'imposition. En France, un ancien président du Conseil constitutionnel, et par ailleurs plusieurs fois ministre dans des gouvernements conservateurs, a récemment expliqué que la décision dont il était le plus fier était un arrêt pris en 2012 afin de censurer le taux marginal d'imposition de 75% au-delà de 1 million d'euros adopté par la majorité de l'époque. Cette censure s'imposait car, selon lui, les principes constitutionnels français impliquent que l'impôt doit rester une contribution et ne peut pas devenir une spoliation. Le problème est que la Constitution française ne fixe nulle part une telle limite chiffrée qui relève de la pure interprétation personnelle. Comme tout citoyen, l'ancien président du Conseil constitutionnel est évidemment libre de considérer que les taux de l'ordre de 70-90% qui ont été appliqués pendant des décennies aux plus hauts revenus et successions dans de nombreux pays au cours du XXe siècle, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, n'ont pas donné les résultats souhaités, ou plus généralement, qu'il ne s'agit pas d'une bonne politique à ses yeux. Il peut faire valoir ses arguments par voie de presse, dans des discours avec ses amis, ou même en écrivant un livre. mais le fait qu'il puisse utiliser ses fonctions de juge constitutionnel pour faire prévaloir son point de vue, sans même avoir à apporter le moindre élément d'argumentation sérieux, témoigne clairement d'un abus de pouvoir caractérisé. Concluons cette discussion en notant que les cours constitutionnelles et les tribunaux de dernier recours sont des institutions éminemment précieuses et fragiles, et qu'il est essentiel de limiter les capacités des gouvernements élus à les instrumentaliser à leur guise. Pour autant, précisément parce qu'il s'agit d'institutions précieuses et fragiles, il est tout aussi important d'empêcher les juges à qui sont confiées ces fonctions éminentes de les abîmer en les instrumentalisant à leur guise. C'est pourquoi il est crucial de bien clarifier ce qui relève du juridique et du politique. Il me semble que le plus sage serait d'inscrire dans les constitutions un principe minimal de justice fiscale fondé sur la notion de non-régressivité, à savoir que les impôts ne doivent pas représenter une proportion du revenu et de la propriété plus faible pour les citoyens plus riches que pour les plus pauvres, et de contraindre les gouvernements à rendre publiques les informations adéquates sur la répartition du prélèvement permettant d'en juger. Surtout, il est essentiel de laisser aux lois et aux assemblées élues le soin de fixer le niveau souhaitable de progressivité fiscale, en s'appuyant sur une délibération publique et sur l'ensemble des expériences historiques et personnelles disponibles sans que les juges puissent intervenir. Revenu de base et salaire juste, le rôle de l'impôt progressif sur le revenu. Je me suis jusqu'ici concentré sur le problème de la diffusion de la propriété. Aussi important soit-il, cet enjeu est loin d'être le seul en question en matière de réduction des inégalités. Dans le cadre du système fiscal proposé sur le tableau 17.1, l'impôt progressif sur la propriété, impôt annuel et impôt successoral réunis, apporte des recettes annuelles équivalent à 5% du revenu national contre 45% du revenu national pour l'impôt progressif sur le revenu. Cela ne signifie certes pas que le premier joue un rôle 9 fois moins important que le second. Le bloc patrimonial, constitué de l'impôt progressif sur la propriété et de la dotation universelle en capital, a un impact structurel et à long terme sur la répartition des patrimoines et du pouvoir économique qui dépasse de beaucoup son poids strictement fiscal. Il reste que c'est l'impôt progressif sur le revenu qui doit constituer, à mes yeux, le mode principal de financement de l'État social et des dépenses publiques en général, éducation, santé, retraite, etc. Précisons d'emblée que j'ai inclus, pour simplifier au sein de l'impôt progressif sur le revenu, non seulement l'impôt sur le revenu au sens strict, mais également les cotisations sociales et les autres prélèvements sociaux assis sur les salaires, les revenus d'activité non salariés et parfois les revenus du capital. Ces prélèvements sociaux s'apparentent de fait à une forme d'impôt sur le revenu, dans le sens où le montant prélevé dépend des revenus, parfois avec des taux variables suivant le niveau de salaire ou de revenu. La différence essentielle est que ces prélèvements sont généralement versés non pas dans le budget général de l'État, mais dans des caisses sociales dédiées par exemple au financement de l'assurance maladie, du système de retraite, des allocations chômage, etc. Il me semble tout à fait essentiel que de tels systèmes de prélèvements dédiés et de caisses séparées puissent continuer à s'appliquer. Compte tenu du niveau global très élevé des prélèvements obligatoires, ici fixé à 50% du revenu national, mais qui dans l'absolu pourrait être encore plus important si les besoins le justifiaient, il est capital de tout faire pour favoriser une meilleure appropriation citoyenne des impôts et de leurs usages sociaux, ce qui peut passer par des caisses séparées pour différents types de dépenses, et plus généralement par la plus grande transparence possible sur l'origine et la destination des prélèvements. En pratique, on observe, suivant les pays, une grande diversité de situations quant à la composition du prélèvement fiscal. Au sein des pays d'Europe occidentale, où les prélèvements obligatoires se sont stabilisés autour de 40-50% du revenu national dans les années 1990-2020, on constate généralement que l'impôt sur le revenu, y compris l'impôt sur les bénéfices des sociétés, représente autour de 10-15% du revenu national, alors que les cotisations sociales et autres prélèvements sociaux peuvent atteindre environ 15-20% du revenu national et les taxes indirectes, TVA et autres taxes sur la consommation, autour de 10-15% du revenu national. De façon générale, les taxes indirectes, en particulier sous forme de droits de douane, étaient dominantes jusqu'au XIXe siècle dans tous les pays, avant d'être graduellement remplacées par les impôts sur les revenus et les cotisations sociales comme mode principal de prélèvement. De mon point de vue, les taxes indirectes n'ont pas de véritable justification, à l'exception de celles visant à corriger une externalité comme la taxe carbone, sur laquelle je reviendrai plus loin, et devraient, dans l'absolu, être remplacées par des impôts pesant sur le revenu ou la propriété. En particulier, les taxes indirectes, comme la TVA, ne permettent pas de répartir la charge fiscale en fonction du niveau de revenu ou de propriété, ce qui constitue une limitation majeure d'un point de vue économique comme de celui de la transparence démocratique. L'analyse détaillée de la façon dont il convient d'organiser les différents types de dépenses publiques et les multiples composantes de l'État social, assurance maladie universelle, régime unifié de retraite, etc., dépasserait de beaucoup le cadre de ce livre. Je reviendrai plus loin sur le cas de la répartition de la dépense d'éducation, qui joue un rôle central dans la formation et la persistance des inégalités. Je veux simplement préciser ici le rôle joué par le système de revenus de base au sein de l'État social et de la société juste. Le fait qu'il existe un revenu de base, c'est-à-dire un système de revenus minimum garanti dans de nombreux pays, et en particulier dans la plupart des pays d'Europe occidentale, est une excellente chose. Ces systèmes peuvent et doivent être améliorés, en particulier en les rendant plus automatiques et universels, notamment vis-à-vis des demandeurs sans domicile, qui ont souvent le plus grand mal à accéder aux revenus de base, au logement, et plus généralement à des parcours adéquats d'insertion sociale et professionnelle. Il est également essentiel de généraliser le revenu de base à l'ensemble des personnes disposant de bas salaires et revenus d'activité, et en mettant en place de façon aussi systématique que possible le versement automatique du revenu de base sur les bulletins de salaire des personnes considérées, sans qu'elles aient à le demander, en lien avec le système d'impôt progressif sur le revenu, également prélevé automatiquement à la source. Par exemple, une version relativement ambitieuse du revenu de base, telle que celle indiquée sur le tableau 17.1, pourrait consister à mettre en place un revenu minimum équivalent à 60% du revenu moyen après impôt pour les personnes sans autres ressources et dont le montant versé déclinerait avec le revenu et concernerait environ 30% de la population pour un coût total d'environ 5% du revenu national. Là encore, ce paramétrage n'est donné qu'à titre illustratif. Ces choix méritent une large délibération qu'il n'est pas question de trancher ici. Mais le point important sur lequel il convient d'insister est que la justice sociale ne doit pas s'arrêter aux revenus de base. Dans l'exemple indiqué sur le tableau 17.1, les dépenses publiques prises en charge dans le cadre de l'État social représentent environ 40% du revenu national, en particulier au titre des systèmes de santé et d'éducation, des retraites, de l'allocation chômage et des allocations familiales, etc. Contre 5% pour le revenu de base et 5% pour la dotation en capital. Les ordres de grandeur sont importants. Ils expriment l'idée que la société juste doit se fonder sur une logique d'accès universel à des biens fondamentaux, au premier rang desquels la santé, l'éducation, l'emploi, la relation salariale et le salaire différé pour les personnes âgées sous forme de pension de retraite et privées d'emploi sous forme d'allocation chômage. L'objectif doit être de transformer l'ensemble de la répartition des revenus et de la propriété, et par là même la répartition du pouvoir et des opportunités, et pas simplement le niveau du revenu minimum. L'ambition doit être celle d'une société fondée sur la juste rémunération du travail, autrement dit, le salaire juste. Le revenu de base peut y contribuer en améliorant le revenu des personnes trop faiblement rémunérées. Mais cela exige aussi et surtout de repenser un ensemble de dispositifs institutionnels complémentaires les uns des autres. Il s'agit notamment du système éducatif. Afin que chacun ait une chance d'accéder à un emploi correctement rémunéré, il faut sortir de l'hypocrisie consistant à investir davantage de moyens dans les filières élitistes que dans les filières les plus fréquentées par les étudiants socialement défavorisés. Il s'agit également du système de droit du travail et plus généralement du système légal. Les négociations salariales, le salaire minimum, les échelles de salaire et le partage des droits de vote entre les représentants des salariés et des actionnaires peuvent contribuer à la mise en place du salaire juste, à une meilleure répartition du pouvoir économique et à un plus grand investissement des salariés dans la stratégie des entreprises. Il s'agit enfin du système fiscal. Outre l'impôt progressif sur la propriété et la dotation en capital, qui favorise la participation des salariés, il faut souligner le rôle de l'impôt progressif sur le revenu qui doit contribuer au salaire juste en réduisant les écarts de revenus au niveau correspondant à une société juste. En particulier, l'expérience historique montre que les taux marginaux de l'ordre de 70-90% sur les plus hauts revenus ont permis de mettre fin aux rémunérations astronomiques et inutiles, aux plus grands bénéfices des salaires moins élevés et de l'efficacité économique et sociale d'ensemble. De fait, tout indique qu'un barème d'imposition du type de celui indiqué sur le tableau 17.1 permettrait de revenir à une échelle de salaire plus resserrée et à de meilleurs salaires dans le bas et le milieu de la répartition. On notera également que le barème proposé atteint assez vite des niveaux d'imposition relativement élevés, avec par exemple un taux effectif global de l'ordre de 40%, y compris les cotisations sociales, pour les revenus autour de 2 fois le revenu moyen. Cela est nécessaire pour financer un État social ambitieux et universel, notamment en termes de système de santé et de retraite. Il faut toutefois rappeler qu'en l'absence de tel système public, les salariés en question devraient acquitter d'importants versements à des fonds de pension et à des assurances santé privées qui, en pratique, peuvent s'avérer nettement plus coûteux que les systèmes publics. Pour résumer, il faut éviter de faire du revenu de base une sorte de solution miracle qui permettrait de se dispenser de tous ces autres dispositifs institutionnels. Dans le passé, l'idée du revenu de base a parfois été instrumentalisée pour promouvoir une forme de solde de tout compte, justifiant de fortes coupes dans les autres programmes sociaux. Il importe donc de penser le revenu de base comme un élément d'un ensemble plus ambitieux, incluant notamment l'impôt progressif sur la propriété et sur le revenu, la dotation en capital et l'État social.